Et donc nous terminons avec Reseco, l'association Reseco incarnée par Chloé Hérault qui en est la directrice. On va expliquer rapidement ce qu'est l'association Reseco. Donc Reseco, c'est une association qui, afin de favoriser l'intégration du développement durable dans les achats publics, une centaine d'organisations du Grand Ouest se sont regroupées dès 2006. Leur volonté d'animer une dynamique facilitant l'intégration des dimensions environnementales, sociales et économiques dans la commande publique. Le réseau est composé de différentes structures de droit public soumises au code de la commande publique, collectivités, EPCI, SDIS, universités. Alors ma première question est, dans quel cadre légal intervenez-vous ? Pourquoi est-ce que justement la commande publique doit-elle s'engager dans des dimensions, enfin doit intégrer le développement durable dans ses achats ?
Alors la commande publique, elle évolue depuis plusieurs années avec une montée en puissance de cette notion du développement durable dans la commande publique. Ça a commencé, on va dire, en 2014 et puis petit à petit, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, toutes ces années-là, il y a eu une nouvelle loi qui est sortie pour intégrer des notions de développement durable. Alors soit c'est des lois qui touchent certaines familles d'achats. On a par exemple la loi Egalim qui va toucher plutôt tout ce qui est alimentation, restauration collective. Et puis on va avoir des réglementations qui vont être plus transverses, comme la loi AGEC qui touche la question du réemploi, puisque l'article 58 de la loi AGEC oblige l'intégration de réemploi, réutilisation, recyclage dans 17 familles et sous-familles d'achat. Et puis tout récemment, on a l'article de la loi Climat et Résilience qui est sorti en 2021. Et donc la loi Climat et Résilience, elle obligera à partir de 2026 une dimension environnementale dans tous les marchés. Donc ça, c'est une révolution. Aujourd'hui, on a beaucoup de marchés qui ne prennent pas du tout en compte une considération environnementale. Et donc, 100% des marchés auront cette obligation-là. Et donc, les objectifs, c'est pour 2025 même, alors ça, c'est dans le cadre du PNAD, 30% des marchés devront 30% des marchés devront avoir une considération sociale et 100% des marchés devront avoir une considération environnementale. Donc c'est dans ce schéma réglementaire-là que les acheteurs aujourd'hui publics doivent évoluer et faire évoluer leurs pratiques. Parce que, comme vous l'avez vu, finalement, c'est pas vieux et c'est monté en puissance d'un coup. Et donc, on a une évolution des pratiques qui doit se faire pour atteindre ces objectifs.
Et c'est là que vous intervenez justement pour accompagner les collectivités. Alors, de quelle manière ? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour illustrer justement cette action d'accompagnement que vous faites auprès des collectivités ? On va parler, je pense par exemple à la loi Egalim. Allez, on va donner l'exemple d'une collectivité peut-être que vous accompagnez dans ce cadre-là ?
Alors nous on n'est pas, la loi Egalim ça va très bien, donc la loi Egalim donc avec des obligations d'atteindre un certain pourcentage de produits de qualité et de produits bio. Alors nous on va pas être un bureau d'études où on va pas rédiger un cahier des charges avec la collectivité. En revanche nous ce qu'on va faire c'est on va sensibiliser et on va expliquer comment les outils qu'ils utilisent au quotidien vont leur permettre d'atteindre ces objectifs-là. On parle beaucoup de l'outil de sourcing qui va permettre vraiment en amont du marché, bien questionner son besoin, bien connaître l'état des acteurs privés pour ensuite bien rédiger le marché, allotir correctement. Bref, c'est des outils qui eux utilisent au quotidien, mais qui vont pouvoir utiliser de manière à ressortir un fournisseur vertueux dans ce domaine-là. Donc, pour être un peu plus concret, on va par exemple organiser des événements dans lesquels on va faire, là par exemple, on l'a fait en Centre-Val de Loire, on a fait une série de webinaires où on prend un outil qu'on détaille en une demi-heure, on prend un outil, on le détaille, on dit voilà comment vous pouvez l'utiliser. Donc là, on a fait une série de 5 webinaires et ça se conclut avec des rencontres terrain, avec des producteurs qui vont permettre donc ces rencontres qu'on appelle acteurs privés, acteurs publics, vont permettre que chacun se connaisse les contraintes des uns et des autres et donc pouvoir rédiger un marché qui est adapté au terrain. Par exemple, je donnais tout à l'heure l'exemple, on a un producteur de yaourt nature sur le territoire. La collectivité fait un lot yaourt nature et yaourt aux fruits. Le fournisseur le producteur ne pourra pas répondre et donc ça exclut de fait un producteur local qui aurait pu répondre au marché. Donc c'est en connaissant le territoire qu'on va pouvoir rédiger un marché et ainsi faire vivre une économie locale. Voilà.
Mais la commande publique concerne de nombreux types de marchés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. On peut penser à des matériaux de construction, on peut penser à de l'alimentation. Comment est-ce que vous, justement, vous arrivez à être, alors je vais donner une image, mais être l'aigle qui surplombe la vallée et qui arrive à avoir cette dimension, justement, tout azimut sur les ressources du territoire?
Alors nous, en fait, on va s'appuyer sur tous les experts parce que nous, on travaille sur la commande publique durable, mais on ne peut pas être expert en bâti, on ne peut pas être expert en toutes les familles d'achat. On a environ une trentaine de familles d'achat qu'on peut travailler, donc on ne peut pas être expert en tout. En revanche, sur le territoire, on a des partenaires qui sont, eux, experts et on va pouvoir travailler avec eux et donc soit créer des outils, soit créer des événements, créer des supports pour pouvoir accompagner cette évolution-là, à la fois des acteurs privés ou des acteurs publics. Parce qu'on se rend compte aussi que quand on travaille avec les fédérations ou les choses comme ça, elles aussi, de leur côté, elles travaillent avec nous, ça leur permet de faire évoluer leurs pratiques avec leurs propres adhérents.
Oui, alors parce qu'en même temps qu'on parle, il y a notre grand témoin qui prend des notes, hein, avec l'aide de Margot, et c'est donc la dernière interview qu'on réalise. Voilà, je réfléchis à voix haute, mais il y a des personnes en fait qui sont expertes dans leur domaine. À chaque fois, c'est ce qu'on a pu voir au cours des différentes interviews, que ce soit la culture, que ce soit l'alimentation, l'agriculture paysanne, le réemploi, etc. Et justement, il va y avoir à chaque fois justement cette dimension de réseau, de fédération. On pense à la Fédération France Nature Environnement avec laquelle on a commencé cette série d'interviews. Voilà, cette fédération qui va permettre de mettre en réseau justement ces experts qui vont pouvoir échanger et faire avancer l'expertise, hein, je suis désolé de parler de manière si évidente, faire avancer cette expertise et les différentes réflexions sur les enjeux en faveur de la transition écologique et énergétique, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire justement dans une économie sociale et solidaire. Je voudrais savoir, vous, comment se met en place la force de ce réseau? Quelle est la stratégie, justement? Quelle est votre stratégie pour travailler en réseau avec ces experts, connaître de nouveaux experts d'une part, mais aussi toucher de nouvelles collectivités d'autre part?
Alors nous, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on est une association, on est sur trois régions, en Bretagne, Pays de Loire et en Centre-Val de Loire. Et en fait, nous, notre force, c'est nos adhérents. On a 130 structures publiques soumises au code de la commande publique qui vont du conseil régional à conseil départemental, à métropole, aglo, à une commune de 5000 habitants, par exemple. Toutes ces structures-là, elles vont avoir avancé, elles vont avoir innové sur une famille d'achat, sur un marché. Et donc, c'est en partageant toutes ces bonnes expériences qu'on va faire avancer le collectif. Et donc, nous, on dit vraiment notre force, c'est nos adhérents. Et c'est avec eux qu'on va pouvoir avancer et faire avancer tout le monde. Après, notre stratégie, c'est toujours d'aller chercher de nouveaux adhérents pour aller chercher des nouvelles bonnes pratiques pour pouvoir aussi les accompagner, tous ces nouveaux adhérents, dans cette mise en place de la démarche. Et puis aussi, une fois qu'on a identifié une fois qu'avec nos adhérents, on a identifié des familles d'achat ou des sujets sur lesquels travailler, on va aller chercher les experts qui ce sujet-là et on va travailler avec eux. Donc là, c'est par exemple le cas dans le cadre du bâtiment, on travaille actuellement sur la création d'une boîte à outils avec des experts du biosourcé sur comment intégrer des matériaux biosourcés dans les commandes publiques et la construction de bâtis. Donc c'est vraiment, on va aller chercher notre expertise, on va dire publique, auprès de nos acheteurs publics, nos adhérents, et puis on va aller chercher l'expertise auprès des acteurs privés. Et juste pour finir par rapport à ça, nous, l'importance qu'on donne, et c'est quelque chose qu'on trouve important quand on travaille avec les collectivités, on le sait, c'est le soutien politique. C'est-à-dire au sein d'une collectivité, un projet ne peut pas se mettre en place si on n'a pas un soutien politique. Et à contrario, même avec un soutien politique, si on n'a pas une personne technique identifiée pour pouvoir mettre en œuvre concrètement le projet, ça ne va pas aboutir non plus. Donc nous, pour adhérer à Réseco, on demande à toute structure qui adhère d'avoir un binôme élu technicien, ce qu'on appelle un élu technicien, qui va vraiment porter cette adhésion et donc porter la démarche d'achat durable au sein de la structure, au sein de la collectivité.
Vous le disiez, ce sont plus de 130 entités publiques donc à l'échelle de vos trois, enfin donc Pays de la Loire, Bretagne et région Centre-Val de Loire, voilà qui vous font confiance. 7 seulement en région Centre. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe qu'on est là depuis moins longtemps, donc voilà, ça s'explique comme ça. Et puis peut-être qu'on n'a pas encore assez trouvé les bons réseaux pour les faire rejoindre le réseau. Alors on en a 7 en Centre-Val de Loire, on en a qui sont en train d'adhérer, mais on a aussi beaucoup de collectivités qui profitent de nos actions. On a des actions réservées à nos adhérents, et puis grâce à des financements ADEME et certaines régions, on a des financements, on a des événements qui sont aussi accessibles à tous. On a des sensibilités, des formations, des webinaires, et donc là on a un nombre plus important de structures du Centre-Val de Loire qui participent et qui se nourrit de nos actions.
Et donc on vous souhaite bien évidemment une bonne continuation. On va juste, pour conclure cette série d'interviews, parler de cette journée achat public durable le 24 novembre à Bourges. De quoi s'agira-t-il ?
Merci de me donner l'occasion d'en parler. Alors cette journée, elle est organisée sur deux thématiques. La matinée est organisée sur l'économie circulaire et la commande publique, justement avec la CRES, le RAR et FEI, où là on va dégrossir un petit peu l'article 58 de la loi AGEC. Donc avec les obligations de famille et sous-famille, réemploi, réutilisation, recyclée. Et puis ensuite, on va dire concrètement avec les acteurs ESS, comment on va pouvoir travailler ce sujet-là, comment on va pouvoir construire des filières, est-ce qu'on peut rédiger un marché d'une certaine manière pour que certains acteurs de l'ESS puissent facilement se positionner. Donc ça, c'est le matin. Et puis l'après-midi, on va travailler justement sur la question de la loi EGalim, où là, et donc avec la question de l'alimentation, là, on va travailler avec Biocentre, avec la Chambre d'Agri, la région et la DRAF. Et donc, avec tous ces acteurs-là, on a déjà fait ce parcours de webinaire. Et donc, on va essayer de rencontrer les producteurs pour aller un petit peu plus loin et puis confronter les regards.
Merci Chloé Hérault. Donc, je rappelle, vous êtes directrice de Réseco. Et c'est avec vous donc, que nous concluons cette série d'interviews pendant lesquelles nous sommes partis à la rencontre donc, d'initiatives citoyennes locales qui œuvrent en faveur de la transition écologique et énergétique. Je garde un très bon souvenir de tous ces échanges que j'ai pu avoir avec les uns les unes les autres, ces échanges porteurs d'espoir, de solutions. Je pense que la transition écologique et énergétique, mais enfin on en reparlera, nécessite quand même de réfléchir un petit peu, d'aller se confronter à l'autre, de réfléchir avec l'autre, parce qu'il y a des solutions, mais il faut les trouver, elles ne sont pas toutes faites. Voilà, et je crois que c'est une spécificité, justement, parce que ça favorise le débat, l'échange d'idées, l'échange de pratiques, l'échange d'expériences, enfin bref, beaucoup d'échanges, hein, vous l'aurez compris, beaucoup d'échanges humains, et c'est en cela que cette possibilité d'entrepreneuriat devient intéressante, parce que voilà, l'échange humain est le prémisse à tout projet. Voilà, pour servir l'humain, bien évidemment. Merci à vous, merci aussi donc à toutes celles et ceux qui sont venus assister à ces enregistrements, à ces interviews. Et puis donc je vous retrouve tout à l'heure à 17h30 pour une grande table ronde afin de justement savoir quelle est la place de l'économie sociale et solidaire dans cette transition énergétique et écologique que nous allons devoir entreprendre dans... très bientôt en fait, hein. Avant la fin de l'année il faut s'y mettre, hein. En fait oui voilà, il y en a... en fait non, c'est qu'on n'est pas en retard, vous êtes déjà en avance, on est déjà en avance en fait, c'est ça dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui sont en avance et qui nous proposent des solutions, mais on en reparle tout à l'heure dans le débat.